France Inter. Le journal Éric Delvaux. Bonsoir.
Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, l'Ovalie à la française. Les Bleus espèrent bien remporter ce soir le tournoi Destination France-Écosse à 21h. Nous serons en direct au Stade de France. À la une également, Bruno Retailleau qui n'exclut pas une démission s'il était empêché de poursuivre sa mission sur le dossier algérien. Il le dit ce soir aux Parisiens. Explication à suivre. Nous irons à Belgrade où afflue depuis la mi-journée une marée humaine contre la corruption en Serbie. Et en Ukraine, à propos d'un hypothétique cessez-le-feu, eh bien nous verrons ce que pèse la coalition dite des volontaires qui s'est réunie aujourd'hui pour garantir la sécurité de Kiev et du régime ukrainien. Les 25 représentants ont prévu de se retrouver jeudi à Londres. Et puis, c'est le début du printemps des poètes pour calmer les esprits, nous dira la marraine de l'événement, Ariane Ascaride. Et puis le temps de demain, dimanche, Céline Lacosta, avec encore un peu de neige le matin sur le centre du pays.
Oui, la perturbation va se décaler un tout petit peu vers l'ouest et on devrait avoir encore des chutes de neige à basse altitude entre l'est du Poitou-Charentes, le Limousin et l'Auvergne demain matin.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. France Inter. C'est donc l'événement sportif du week-end France. Écosse, à partir de 21h, les Bleus de Fabien Galthié commenceront à jauger le chardon écossais. Et à l'issue de ce match, eh bien, l'équipe de France de rugby compte bien remporter le tournoi Destination. Vincent Pellegrini, vous êtes au Stade de France. Bonsoir.
Bonsoir Eric.
Évidemment, on va rester prudent, hein, surtout ne pas s'emballer. Mais les scénarios sont plutôt favorables pour voir l'équipe de France remporter ce trophée.
Oui, c'est l'heure de vérité hein, pour les Bleus. En cas de succès ce soir face aux Écossais, ils remporteront pour la 27e fois de leur histoire ce tournoi des Destinations. On a vu un 15 de France très brillant la semaine dernière en Irlande, un éclatant succès 42-27 qui place les Bleus en très bonne position effectivement pour remporter ce tournoi 3 ans après la dernière victoire des Bleus dans cette compétition. Alors ce sera, on le sait, hein, sans Antoine Dupont, mais avec Maxime Lucu à demi-mêlée qui a brillé à Dublin la semaine dernière. Et puis il y a toute une série de records qui peuvent tomber, je ne vais pas tous vous les citer. Sachez que Damien Penaud peut quand même devenir le meilleur marqueur d'essai de l'histoire des Bleus.
Blanco.
Oui, 38 essais tous les deux, et peut-être donc Damien Penaud seul en tête ce classement. Louis Bielle-Biarret, déjà 7 essais inscrits, il peut devenir le deuxième joueur de français à avoir inscrit un essai à chaque match du tournoi. Bon bref, un match qu'on attend spectaculaire face à une équipe d'Écosse qui est friable défensivement, mais qui est capable de très beaux mouvements offensifs.
Le match des records peut-être. Merci beaucoup Vincent Pellegrini en direct de l'intérieur du Stade de France. Il y aura ce soir un spectacle pyrotechnique, un show de lumière pour attirer un nouveau public. C'est ce que souhaite la Fédération de rugby. Jérôme Val, vous êtes en direct, vous, à l'extérieur de ce Stade de France et les portes viennent d'ouvrir.
Exactement, le public commence à rentrer et le public qui était déjà nombreux dès 17h, hein, c'était assez impressionnant de voir beaucoup de monde autour de l'enceinte de Saint-Denis avec les portes qui viennent de s'ouvrir pour le grand public et ça commence à affluer de partout dans ce stade de France, de vraiment des supporters même venus de Toulouse, j'ai croisé de La Rochelle, etc. Et je suis avec Rémi, bonsoir Rémi.
Bonsoir.
On a entendu Charles Aznavour, une chanson de Charles Aznavour à l'instant, Emmenez-moi au pays des merveilles. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va vivre une soirée historique ce soir?
On y croit, on a très envie, on est très heureux d'être là et on pense que ce 15 de France, il va nous faire sourire toute la soirée et on espère qu'on va soulever la coupe ce soir.
Est-ce que vous avez été très emballé par ce 15 de France justement dans ce tournoi 2025?
Oui, ils nous ont fait un petit peu peur et on a été déçus encore comme eux en Angleterre mais en Irlande ça a été très beau et ce soir on va finir la fête.
Donc le capitaine du 15 de France, Grégory Aldrit, ce soir va soulever le trophée vers 23h30. Pour vous, c'est une certitude ?
C'est une certitude et on va aller pousser pour que ça se fasse.
Merci Rémi, bon match à vous, bon match aux 80 000 spectateurs. Et une pensée, Eric, quand même, ouais, pour les supporters écossais venus en kilt. Il fait froid ce soir et on a une petite pensée pour eux.
Merci Jérôme Val, comme au Pays des Merveilles, donc pourquoi pas ce soir France-Écosse à partir de 21h. Et puis à la mi-temps de cette rencontre, l'artiste Louane dévoilera le titre qu'elle chantera lors du prochain concours de l'Eurovision en mai prochain. Bruno Retailleau poursuit son bras de fer avec l'Algérie et il n'a pas l'intention de trop baisser les bras. Dans un entretien au Parisien, le ministre de l'Intérieur dresse la liste des dossiers épineux, la crise diplomatique entre Paris et Alger, le renvoi des OQTF, l'avenir des accords de 68 ou bien la détention de Boualem Sansal. Bonsoir Timur Özturk.
Bonsoir Eric.
Bruno Retailleau laisse donc entendre qu'il serait prêt à quitter son poste si le gouvernement lui demandait de céder sur ces dossiers ?
Tant que j'ai la conviction d'être utile et que les moyens me sont donnés, je serai mobilisé. Mais si on me demandait de céder, évidemment que je le refuserais, prévient Bruno Retailleau. Bien que le ministre de l'Intérieur assure que désormais ma ligne, celle du rapport de force avec l'Algérie, est celle du gouvernement. Mais au début du mois, Emmanuel Macron avait recadré Bruno Retailleau pour défendre ses prérogatives. Chacun est dans ses compétences. L'accord de 1968, c'est le président de la République. Les deux hommes s'étaient vus depuis et étaient censés avoir accordé leur position. En toile de fond, c'est aussi le Congrès des Républicains contre Laurent Wauquiez qui se joue. Bruno Retailleau ne veut pas paraître conciliant avec la ligne macroniste auprès des militants de droite. Le jour où Bruno aura le sentiment qu'il ne peut pas mener sa politique, il en tirera les conséquences, nous confie un de ses soutiens au Sénat. Ce qu'on attend d'un ministre, ce n'est pas de menacer de démissionner, mais d'avoir des résultats dans son domaine, critique ce soir un proche de Laurent Wauquiez.
Et on verra demain ce qu'en pense François Bayrou. Il sera l'invité exceptionnel de France Inter entre midi et 13h dans l'émission Questions politiques avec Karine Bécard. Une marée humaine sous une pluie fine. Aujourd'hui à Belgrade, plus de 100 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur serbe. Depuis la mi-journée, les manifestants déferlent vague après vague pour une manifestation historique que les organisateurs souhaitent toujours pacifique. Cette manifestation a été initiée depuis quelques mois par les étudiants contre la corruption en Serbie. Or, le président serbe Aleksandar Vučić affirme qu'il ne laissera pas la rue dicter les règles du pays. À Belgrade, reportage de Louis Seyé.
Au milieu de la foule immense massée autour du Parlement, Adriana tient une pancarte avec le président Vučić représenté en Louis XVI. Cette étudiante de 21 ans est persuadée que le changement arrive.
Il y a des chances qu'il parte aujourd'hui, même si on sait qu'il n'est pas prêt à lâcher son fauteuil de président. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, il partira dans un futur très proche.
Débutée il y a plus de 4 mois, l'impressionnante mobilisation des étudiants contre la corruption du régime a redonné de l'espoir à Vesna, une retraitée de 62 ans.
Cette mobilisation de la jeunesse, c'est comme un soleil qui me réchauffe. Et pendant plus de 10 ans, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'espoir et que je ne pourrais jamais profiter de ce soleil.
État de droit, justice, démocratie, les valeurs défendues par les manifestants sont aussi celles de l'Union européenne. À 30 ans, Nicolas est déçu de l'absence de soutien des dirigeants européens à la mobilisation en cours.
On ne peut pas être content de l'attitude de l'Europe. Tout le monde voit que l'on manifeste massivement presque tous les jours, mais personne ne réagit.
Alors que beaucoup redoutent des violences provoquées par des partisans du régime, les Nations Unies ont appelé les autorités à respecter l'exercice complet des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression. À Belgrade, Louis Seyé, France Inter.
Il faut clairement mettre la pression sur la Russie. C'est ce qu'écrit ce soir le président Macron sur le réseau X à l'issue d'une réunion entre 25 dirigeants étrangers. Une visioconférence dite coalition des volontaires initiée par Londres, à l'initiative donc du Premier ministre britannique pour garantir des conditions de sécurité à l'Ukraine dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu. Et bien pour le Premier ministre britannique Keir Starmer, la Russie doit venir s'installer à la table des négociations.
Si Poutine veut vraiment la paix, c'est très simple. Il doit arrêter ses attaques barbares contre l'Ukraine et accepter un cessez-le-feu. Et le monde entier observe. Je pense que tôt ou tard, il devra s'asseoir à la table des négociations et engager une discussion sérieuse pour une paix qui sera sûre et durable. Et cela signifie, premièrement, de renforcer l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre elle-même. Deuxièmement, être prêt à défendre nous-mêmes tout accord. Et troisièmement, maintenir la pression sur Poutine pour qu'il accepte de négocier.
Et si Moscou tarde à accepter cette trêve, c'est parce que la Russie attend d'avoir sur le terrain une position plus solide, plus favorable. C'est ce que dit aujourd'hui Volodymyr Zelensky. Cette coalition dite des volontaires, elle doit se rencontrer à nouveau jeudi prochain à Londres pour concrétiser ses plans de soutien à l'Ukraine. Or, du point de vue militaire, eh bien, cela reste pour l'instant une grande nébuleuse. C'est ce que pense Patrick Martin-Jeunier. Il est enseignant à Sciences Po et à l'INALCO, l'Institut des langues et des civilisations orientales.
Cette coalition des volontaires est des plus floues. On a parlé de 25 pays réunis aujourd'hui à Londres, c'est très bien, mais le seul pays qui aujourd'hui s'engagerait pour un éventuel envoi de troupes, c'est le Royaume-Uni pour l'instant, et encore sous réserve de la conclusion d'un cessez-le-feu, d'une paix juste et durable. Pour l'instant, la France, on ne sait pas quelle est sa position. Bref, Keir Starmer a annoncé ce jeudi à Londres une réunion internationale de militaires, dit-il, pour entrer dans la phase opérationnelle de ce soutien. Mais pour l'instant, elle ne prend pas forme, cette coalition.
Aux États-Unis, les démocrates sont furieux contre un des ténors de leur propre parti, Chuck Schumer. Le chef des sénateurs démocrates a apporté son soutien à un texte républicain pour éviter la paralysie, le shutdown de l'État fédéral. Toujours aux États-Unis, cette série de tornades dans le centre et le sud du pays, accompagnée de violentes tempêtes. Il y a au moins 14 morts et des dizaines de blessés. Et puis à l'instant, le bulletin médical du Vatican, le pape François va mieux, mais il reste hospitalisé pour suivre sa thérapie.
France Inter, Éric Delvaux.
On sait depuis 10 jours qu'une commission d'enquête indépendante sera lancée par la congrégation religieuse de Bétaram pour faire la lumière sur cet établissement catholique béarnais au cœur d'un scandale depuis que des anciens élèves ont dénoncé des violences sexuelles et physiques commises par des laïcs comme des religieux. Eh bien, à Bayonne, cet après-midi, se tenait un forum sur les violences sexuelles en présence justement de quelques membres de cette congrégation religieuse de Bétaram qui a d'ailleurs apporté des précisions sur les objectifs de cette commission d'enquête. À Bayonne, les précisions de Farida Noir.
C'est un think tank indépendant qui présidera cette commission. La congrégation religieuse annonce également que les réparations financières concerneront aussi les victimes de violences physiques à Bétaram, mais pas seulement les victimes de violences sexuelles. Elle garantit aussi à la commission un accès total à ses archives. Elle devra rédiger dans un délai d'un an le rapport final retraçant l'ensemble de ses travaux. Présent cet après-midi, Olivier Bunel, élève à Bétaram, qui a apporté son témoignage, a décrit les abus du pion que tout le monde surnommait Cheval. Lui, qui ne voulait pas de réparation financière, a finalement changé d'avis.
Moi, ma seule réparation, elle aurait été que cette personne finisse là où elle doit être. Mais depuis une dizaine de jours, j'ai changé d'avis, dans la mesure où le procureur nous a dit que ça ne sera pas possible. Donc, d'une certaine manière, il faut que maintenant, aujourd'hui, il y ait une autre forme de réparation qui, pour moi, était compliquée à ne serait-ce qu'envisager, parce que quand je demande de l'argent, j'ai l'impression que c'est malsain, en fait, mais j'en veux pas, hein, à la base. Mais si c'est la seule manière, finalement, je dis pourquoi pas. C'était pas un viol, c'était 71 semaines de viol et d'agressions sexuelles et de coups.
Cet après-midi, le collectif des victimes de Bétaram a aussi demandé à la congrégation d'assumer les traitements psychologiques très coûteux des victimes, ainsi que les frais d'avocat.
Et à propos du service national universel, eh bien Emmanuel Macron annoncera dans les prochains jours une grande refonte. Il le dira dans les prochaines semaines. Il le dit à l'occasion d'une interview à la presse régionale. L'adolescente 15 ans qui avait disparu il y a un peu plus d'une semaine en région parisienne, le jeune Hiéro, a été retrouvé aujourd'hui par des policiers à Pau. C'est le coup d'envoi aujourd'hui du Printemps des Poètes, le plus grand événement de poésie en France. Et après les polémiques l'année dernière qui visaient le parrain de l'événement, Sylvain Tesson, accusé d'être une figure de proue de l'extrême droite littéraire, eh bien, le parrain et la marraine sont cette année le comédien, réalisateur Hippolyte Girardot et l'actrice Ariane Ascaride, car pour elle, la poésie est une réelle nécessité.
Je pense que la poésie est complètement indispensable au monde. De tout temps, elle a été indispensable. Et je me dis qu'aujourd'hui, elle l'est peut-être encore plus. Vous avez vu le monde dans lequel on est. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'on était dans un temps où on dansait sur les volcans. Et je trouve ça assez juste, vous voyez, vraiment très juste. Et donc, il faut avoir une réponse et une réponse artistique à ce temps qui est un temps de brutalité. Et je n'accepte pas ce temps de brutalité. Je ne veux pas qu'on m'impose ce temps de brutalité. Tout enfant se rappelle d'une poésie. Vous vous rappelez d'une poésie que vous avez appris quand vous étiez à l'école. On a besoin d'être accompagné par ça. Et la poésie, c'est l'expression, c'est la parole humaine. C'est la parole sensible, c'est la parole politique aussi. Parce que la poésie peut être une poésie politique. C'est le regard de l'homme sur l'homme.
Ariane Ascari, de micro de Fanny Imbert. Toutes les manifestations sont répertoriées sur la carte interactive du site Printemps des Poètes. Le temps.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Demain le ciel va rester assez perturbé sur le centre du pays.
Oui, sur une bande qui partira du Poitou-Charentes vers la Bourgogne-Franche-Comté, le nord des Alpes en passant par le Limousin et le Massif central. Ce sera nuageux, pluvieux, avec encore un petit peu de neige, surtout entre le Poitou-Charentes, le Limousin et le nord de l'Auvergne. Des précipitations qui vont s'atténuer au fil des heures et qui seront plus clairsemées dans l'après-midi. Ce sera plus calme de part et d'autre de cette bande avec des nuages, des éclaircies. Éclaircies un petit peu plus généreuse près de la Méditerranée, et puis on finit par la Corse, où on aura encore quelques averses, mais elles seront moins intenses que ces derniers jours.
Et ce sera toujours bien frais demain.
Hein. Oui, et même en baisse sur la moitié sud demain matin, moins 4 à 0 degrés. De fortes gelées sont attendues dans les vallées du Massif central, 0 à 2 degrés, ce sera la moyenne sur la moitié nord. Dans l'après-midi, cette moyenne grimpera de 5 à 10 degrés, toujours pour la moitié nord, hein. Elle sera plus de 8 à 15 degrés du sud-ouest au pourtour méditerranéen, et ça restera bien froid du Limousin à l'Auvergne, avec 3 à 4 degrés seulement.
C'était Céline Dacosta.